Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, bienvenue dans la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du mensuel Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Trois jours après l'élection régionale, on a une heure donc pour comprendre, essayer de décrypter les résultats de ces régionales. Ce n'est plus seulement un risque éventuel, mais une réalité. Et ce n'est plus simplement une vague, mais un véritable tsunami. Le Front National est largement arrivé en tête au premier tour dans la région Provençale Côte d'Azur et a amélioré son score au deuxième tour, même s'il n'a pas remporté le conseil régional. Vote sanction contre les partis traditionnels ou vote de conviction, la question est désormais posée. Comment appréhender et comprendre l'enquistement non seulement idéologique mais aussi désormais politique du Front National? Comment l'endiguer ou y remédier? Et surtout, quelles conséquences maintenant que le Front National est largement représenté dans l'institution régionale et que les partis de gauche n'y sont plus avec nous? Pour en parler durant cette heure, Frédéric Vigouroux, bonjour.
Bonjour.
Pierre Daréville, bonjour.
Bonjour.
Et Guy Benaroche, bonjour.
Bonjour.
Juste avant de commencer, Michel Guéraud.
Zéro pointé. Dans l'Assemblée régionale sortante, il y avait 41 conseillers socialistes, 20 écologistes et 11 fronts de gauche. Il n'y en aura donc plus aucun pour les 6 prochaines années. Face aux 81 élus de droite, alignés derrière le président Estrosi, l'opposition n'aura donc un seul visage, celui des 42 conseillers Front National. La gauche plurielle, aux commandes en PACA depuis 18 ans, a donc totalement disparu de l'hémicycle régional. C'est bien entendu la conséquence du retrait républicain de la liste socialiste afin de faire obstacle à une victoire de l'extrême droite. C'est aussi un effet indirect de mauvais score au premier tour. Seulement 16,5% pour le PS et ses alliés, soit 13 points de moins qu'en 2010. Seulement 6,5% pour l'Alliance Front de Gauche et Écologiste, soit 10 points et demi de moins que l'addition de leurs scores sur des listes séparées en 2010. Nous avons donc invité pour débattre aujourd'hui trois responsables des trois partis politiques sanctionnés durement dans les urnes. Frédéric Vigouroux, conseiller départemental et maire de Miramas, vous êtes le numéro 2 de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, autrefois présentée comme l'une des plus puissantes du PS. Pierre Daréville, vous êtes secrétaire de la Fédération Communiste des Bouches-du-Rhône, l'un des départements où le PCF conserve ses derniers ancrages municipaux. Guy Benaroche, vous êtes le secrétaire régional EELV, le parti écologiste traversé en PACA comme en France de profondes divergences sur les orientations et la stratégie. Comment en arrive-t-on à pareille défaite? Comment peut-on s'en remettre? À vous de nous dire.
On commence tout de suite avec vous, Monsieur Vigouroux. Le 21 avril 2002, avec la présence de Le Pen au deuxième tour des présidentielles, tout le monde avait crié au choc. 13 décembre dernier, 13 ans après quasiment, est-ce qu'on peut toujours parler de choc ou est-ce que c'était inévitable?
D'abord, le résultat est là. Vous pouvez toujours essayer de réfléchir sur comment vous auriez fait. On va en débattre ensemble. Mais bon, le résultat était là et on savait bien que la totalité des voix de gauche ne permettait pas d'éviter la présidence du Front National. Cet objectif fut atteint, mais le premier tour est le plus important pour nous. Et je crois que vous nous avez réunis pour en parler.
Pierre Daréville, même question.
Oui, effectivement, c'était une catastrophe attendue. Hein. Je pense que c'est le résultat, c'est le signe en tout cas d'un peuple qui ne trouve pas d'issue, qui cherche son espoir, d'une société qui craque aussi sous la domination de la finance et du capitalisme. Et le résultat est là. Et politiquement, on a bien vu qu'on était depuis plusieurs élections déjà hein, face à des difficultés importantes et on a pris des initiatives pour cela. Et effectivement, on peut constater qu'elles n'ont pas suffi.
Oui. Comment on explique l'ampleur des voix, parce que 6 millions de voix pour 50% d'abstention, c'est énorme au premier tour.
Bien sûr, c'est énorme. Je pense qu'il y a des signes avant-coureurs dans les élections précédentes, il y en avait déjà. Donc il y a un mouvement qui se poursuit et qui doit effectivement nous inquiéter. Et effectivement, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir, il faut agir et se mobiliser. Donc on va essayer les uns les autres sans doute d'apporter nos réponses. Mais je pense que, y compris par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que nous ne sommes pas les uns les autres dans la même situation de ce point de vue-là et que nous n'avons pas fait les mêmes choix.
Non, on reviendra tout à l'heure. Guy Benaroche, pareil, Marine Le Pen avait réalisé 6 400 000 voix pour les présidentielles, mais là, il y avait eu 80% de participation, parce que tout le monde participe, enfin, il y a une grande mobilisation pour les présidentielles. Là, 6 millions de voix avec 50% d'abstention.
Oui, oui, vous savez, c'est facile de faire une analyse après coup. On a toujours tendance à essayer de trouver des raisons à ce qui
est arrivé.
C'est
le principe de l'analyse en même temps.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que, en écoutant mes camarades, c'est qu'en fait, tout le monde, plus ou moins, prévoyait cette arrivée, ce grossissement du vote du FN et de l'extrême droite en France depuis plusieurs années. En fait, le FN représente l'alternative qui est considérée comme étant la seule au système politique actuel par tout un tas de citoyens. Donc, en fait, ils votent pas, ils votent un peu moins, ils votent un peu plus. Mais on s'est aperçu que finalement, contrairement à ce qu'on pensait, le fait d'avoir une participation, une augmentation au premier tour ou au deuxième tour n'a pas diminué le vote Front National. Au contraire, il l'a augmenté. Pourquoi ? Parce que très clairement aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt qui est donné par les citoyens à la façon dont nous avons tous, je me mets au milieu, et notre parti se met au milieu aussi, de faire de la politique. C'est-à-dire que pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à faire passer d'alternatives crédibles aujourd'hui en dehors de celle du Front National. Nous n'y sommes pas arrivés dans nos politiques, dans les politiques qui ont été menées par la droite, par la gauche, je suis désolé de le dire, elles ont été menées. Donc le fonds de commerce du FN, UMPS fonctionne parce qu'effectivement le citoyen n'y voit pas de différence. Et nous ne sommes pas arrivés non plus à impliquer les citoyens dans quelque chose de différent qui permettrait de régler leur quotidien. Leur quotidien n'est pas réglé. Ils voient en nous des forces qui agissent sur des attendus politiciens pour régler un certain nombre de choses qui ne leur conviennent plus. On ne raconte plus l'histoire d'une société différente et d'une alternative. Donc on est sanctionné. C'était un peu attendu.
Pierre Dharréville, une élection dite mineure, celle des régionales, à un an et demi des présidentielles de 2017, et qui dans un contexte d'abstention forte, normalement les régionales, ça l'a démontré le premier tour, ça confirme ce score, le socle du Front National. Tout à l'heure, M. Benaroche parlait du fonds de commerce. Là, il y a un fonds de commerce, mais il y a aussi un socle solide maintenant.
Ah oui, manifestement, bien sûr, il y a un enracinement de ce vote. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas prendre de raccourcis, ça mérite des analyses. On a besoin tous de réfléchir. En tout cas, moi, j'ai besoin de réfléchir face à une situation comme celle-là. Je pense qu'il faut prendre le temps, et y compris peut-être qu'aujourd'hui, on va dire un certain nombre de choses qu'on considérera être des bêtises dans quelques mois. Mais oui, il y a un enracinement de ce vote, et c'est préoccupant parce qu'en réalité, ça correspond, à un progrès de l'influence des idées d'extrême droite dans la société, pas simplement en politique, vous voyez, mais dans un certain nombre. Il y a des idées dominantes dans la société, elles sont de plus en plus marquées par les thèses d'extrême droite. Et on le voit dans le paysage politique, lorsque la droite court après l'extrême droite et qu'elle propage à son tour un certain nombre de ses idées. Voilà. Mais je pense qu'il y a une bataille culturelle, idéologique, qui malheureusement a été un petit peu perdue. C'est pas pour moi définitif, sinon je serais pas là pour en parler. Donc il faut relever le gant de cette bataille-là. C'est pas possible de laisser s'installer ces idées dominantes de cette façon-là.
Alors avant de projeter un petit peu comment voir l'avenir, on revient un peu en arrière pour comprendre comment on en arrive là, pour cette gauche donc, qui disparaît du Conseil régional. Frédéric Vigouroux, peut-être, la question c'est déjà la désunion, enfin la gauche plurielle, la régionale, qui va aux urnes, chacun de son côté. On a entendu des socialistes, le soir du second tour, dire mais si on avait été unis, ça ne serait pas passé comme ça, il y aurait une dynamique différente. Vous êtes toujours sur cette idée-là ?
Ah, moi, j'y étais pas au deuxième tour, j'y étais avant le premier tour. J'étais même à l'été quand on sentait, tout à l'heure, certains le disaient, on sentait les choses venir. Je pense qu'on aurait dû, c'est très difficile, mais on va y revenir. Je suis assez d'accord avec Pierre sur le fait qu'il y a besoin qu'on réfléchisse un petit peu plus profondément sur les situations, parce que, et je vais y revenir, mais je veux vous dire que cette désunion, effectivement, ce choix qui avait été d'ailleurs celui la dernière fois qui avait été fait, était peut-être la marche de trop pour arriver au second tour, de se qualifier face au Front National. Ça, c'est un fait. Nous avons souhaité le faire et cela n'a pas été possible parce qu'on était dans un débat national, alors que la région n'est pas mineure et qu'on aurait dû se concentrer aussi, parce que les électeurs ne sont pas stupides. Ils savaient que c'était d'abord une élection régionale. Mais je veux vous dire que tout cela, tous ces calculs qu'on peut faire maintenant a posteriori, pour moi sont importants en termes de « il faut qu'on reconstruise quelque chose de plus uni ». Mais ça part du principe aussi qu'il se passe quelque chose dans notre société aujourd'hui, qu'on formule sur le capitalisme, l'individualisme ou d'autres choses. Je crois qu'il y a un vrai problème culturel qui s'est envahi, et d'une notion qui est maniée par l'extrême droite sur lequel quand on fait des comparaisons historiques, on peut retrouver aussi en 33 ou ailleurs dans d'autres pays, c'est le nationalisme. Et cette idée de l'identité qui avait été amenée par Nicolas Sarkozy, je n'oublie pas, qui a été lancée sous le mandature de Nicolas Sarkozy, a eu écho du côté du Front National. Et cette question culturelle de l'identité d'un peuple, de la façon dont il s'imagine à l'intérieur d'un plus grand ensemble qu'est l'Europe et le monde, cette peur qu'il a aujourd'hui l'a envahi dans son choix. Et je pense qu'il y a une partie de gens peut-être qui votent Front National pour envoyer des messages. Il y en a d'autres qui nous envoient un message très certain sur le fait qu'ils ont une conception de la nation, de la République, qui n'est pas du tout ce que l'on croit. Alors nous avons nous une responsabilité, mais il est certain que cette responsabilité, c'est aussi d'analyser correctement les choses, d'avoir une réponse politique, pas toujours la bonne, mais d'essayer de l'analyser, en tout cas chercher plutôt à les facteurs qui nous rassemblent tous à gauche sur des valeurs communes, que de chercher en permanence les différences.
Guy Ménard-Roche, sur la question des regrets, de ne pas avoir été allié
au premier tour. Non, aucun regret à ce niveau-là. Je pense qu'on a mené une campagne qui était difficile parce qu'il fallait faire passer une façon de voir les choses.
Guy Ménard-Roche, vous n'avez aucun regret?
Je n'ai pas de regret sur la question qui m'a été posée. Oui. Voilà. Donc, je n'ai pas de regret sur la façon dont la campagne s'est passée.
Vous disiez, ça va créer une dynamique, ça va faire venir aux urnes des gens qui n'y vont pas.
On savait très bien depuis le départ que l'idée de région coopérative qui avait été menée avec un certain nombre de partenaires et quand même un quart de nos candidats qui étaient issus de la société civile sans aucun parti était quelque chose de compliqué en l'espace de 3 mois. Ou de 4 mois, ça l'est devenu d'autant plus avec le problème des migrants et encore plus avec les attentats. Ça n'explique pas le résultat, mais ça n'a pas facilité notre campagne. Donc je n'ai pas de regret à ce niveau-là, si ce n'est de ne pas avoir su faire passer le message que nous avons voulu faire. Mais je voulais faire quand même 2 petites réponses, excusez-moi. On parle d'union. L'union en soi n'est pas une fin. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas l'union en soi qui est une fin. Ce qui compte, il y a union sur des bases, sur certaines choses, sur des objectifs, sur une vision de la société. Quel modèle voulons-nous? Donc on peut pas faire d'union, les gens en ont marre des unions qui reposent sur rien, si ce n'est des résultats électoraux. La deuxième chose, quand on parlait des idées de Sarkozy qui a refusé au Front National, je suis désolé, je ne le vois pas comme ça. En ce qui me concerne, je pense que le vote Front National, très souvent, est aussi un vote de lobbying. Je m'explique, il y a effectivement 30 à 35% des gens qui disent qu'ils votent Front National pour leur donner des responsabilités. Il y en a qui votent Front National en disant très clairement que pour autant, ils ne souhaitent pas que le Front National soit là. Par contre, ils savent très bien qu'en votant Front National, ils vont avoir cet effet qui est connu depuis très longtemps en politique, de lobbying des effets du Front National, de leurs idées, sur les partis qui souhaitent récupérer les voix du FN. Et donc, les Républicains ont couru et courent toujours, et Sarkozy au premier, après le lobbying qui est fait par le FN.
Pierre Dharréville, le Front de Gauche, on a assisté à l'effondrement du Front de Gauche. Je rappelle quand même pour les auditeurs, le Front de Gauche est né en 2008 pour concurrencer le Parti socialiste. Le Front de Gauche n'a réussi à faire élire cette fois-ci que 40 conseillers régionaux sur toute la France. Par rapport à la dernière fois, c'était 110. Mélenchon, 11,10% en 2012 au présidentiel, qui critique ses alliés de manière assez forte, on va dire, les communistes et Europe Écologie Les Verts. Dans les Inrecuptibles, notamment, il parle de bataille de chiens entre communistes et verts pour avoir les têtes de liste. On revient à la question de Michel. Finalement, ces alliances, ces mésententes, cette politique politicienne, c'est pas ça que les électeurs rejettent ?
Peut-être pour partie, mais je pense que l'illusion que nous pourrions a priori être tous d'accord et que nous n'aurions que des désaccords de type boutiquier, il faut tordre le cou à ça.
Bien sûr.
On a des désaccords, des manières de voir le monde et l'avenir différentes. Et je pense que c'est sain d'en parler, de pouvoir porter, y compris à la fois des rassemblements quand on y arrive, mais de pouvoir porter des choses différentes quand on n'y arrive pas.
Alors pourquoi
je pense qu'il faut réhabiliter aussi, quelque part, le débat politique, la différence politique.
Alors pourquoi, avec les sondages, ce qui a marché à Grenoble en 2014 au municipal, c'est-à-dire une alliance de premier tour forte, etc., pourquoi ça n'a pas remarché là au
régional? Je ne suis pas sûr que, mais peut-être que Guy Ménard-Roche me démentira, que Grenoble soit l'exemple absolu, c'est surtout une exception. Mais cela étant dit, je pense qu'il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles nous avons mené cette campagne avec ces attentats effroyables. Et je ne cherche pas d'excuses en disant ça, mais ils ont marqué indéniablement le débat politique et ils ont même vitrifié le débat politique à un moment donné. Nous, on a senti qu'on était en train de commencer à installer dans le paysage quelque chose d'un petit peu neuf et on a eu effectivement un certain nombre de difficultés par la suite à rester sur cette dynamique-là. Mais moi, si vous permettez quand même un élément de plus par rapport à l'union et la désunion, nous avons un certain nombre de désaccords à gauche aujourd'hui. Nous avons des désaccords même francs. Il faut que ces désaccords s'expriment. Il faut que le peuple soit saisi de ces débats. Sinon, on ne comprend pas.
C'est quoi les désaccords? Fort. Parce que quand on voit Pierre-Laurent aller avec Barthelone, finalement, ils sont où les désaccords?
Mais nous sommes capables de nous rassembler au deuxième tour. Vous savez très bien que dans une élection, il y a deux tours.
Est-ce que c'est pas ça qui parasite l'idée?
Si je peux aller au bout de mon développement. Bon. Il y a un débat extrêmement vif aujourd'hui sur la question du libéralisme, sur la question de l'austérité. Il se retrouve au niveau national, il se retrouve au niveau local. Ensuite, lorsque les électeurs se sont exprimés au premier tour, on est capable, ou pas d'ailleurs, d'effectuer un certain nombre d'alliances. Voilà, c'est ce qui s'est passé au deuxième tour. Cela étant, je ne crois pas, moi, que dans l'état de la gauche, nous étions capables de produire, d'ailleurs il n'y a pas de région à ma connaissance où ça s'est fait, nous étions capables de produire un accord de toute la gauche au premier tour. Parce qu'il y a des tas de choses sur la table qui ne sont pas réglées. Et moi, je pense qu'y compris, et là, on aura peut-être un certain nombre de débats et de désaccords, parce que tout à l'heure, vous avez dit tous les partis qui sont autour de la table ont été sanctionnés. Enfin, on n'est quand même pas tous dans la même position autour de cette table-là. Moi, je pense clairement que, effectivement, la gauche est en lambeaux, et donc il faut reconnaître cette réalité. Je pense que la politique gouvernementale provoque beaucoup de colère, de déception, de désillusion, et que ça s'est senti dans les urnes, et qu'il faut absolument pas continuer comme ça. Et je considère effectivement, vous m'avez interrogé sur le front de gauche, que nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Mais pour autant, nous sommes là, dans le débat, et je pense qu'on aura beaucoup de choses, effectivement, à se dire, à analyser, à reconstruire.
On va revenir sur comment on peut projeter les reconstructions, les alliances, et par rapport à un débat d'idées dans la deuxième partie.
Michel Guéraud, oui. Juste une seconde, par rapport à ce que disait Guy Benaroche, moi, je n'ai pas de regrets non plus par rapport à ce que nous avons fait ensemble.
Il fallait y aller,
bien sûr.
Mais pas avec le PS.
Après, il faudra...
Avec les Verts.
Après, il faudra... Mais parce qu'on a été capable de se mettre d'accord sur un projet commun. Après, il est évident qu'il faudra en faire l'analyse et que ça n'a pas permis d'obtenir le résultat escompté. Le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Il faudra en tirer les leçons.
On reparle de ce qui n'a pas marché dans votre attelage dans la deuxième partie de l'émission. Toujours sur le bilan, se projeter ensuite, la question du Front républicain et de la stratégie du second tour. Alors là aussi, vous n'étiez pas d'accord avec, d'un côté, la liste coopérative qui voulait se maintenir, mais qui n'a pas pu le faire parce qu'elle n'a pas atteint les 10% qui permettaient de le faire, et de l'autre, le Parti socialiste, où il y a eu visiblement quand même un débat. Le soir du premier tour, Christophe Castaner a pris la parole assez tard pour dire qu'il se retirait, sur injonction, semble-t-il, on le comprend comme ça en tout cas, de notre côté, du national, la direction nationale du Parti socialiste. Donc, Frédéric Vigouroux, est-ce que ce Front républicain, il fallait le faire? On voit par exemple en Alsace, il y a eu un socialiste qui est rentré en dissidence et qui s'est maintenu. Il a fait 15%, le Front national a été battu en Alsace-Lorraine. Est-ce qu'il fallait se faire harakiri, disparaître de l'échiquier régional, de cette institution régionale pendant 6 ans?
Croyez-moi, si on avait pu s'échapper à cette question, on l'aurait fait. Si on avait été qualifiés tous ensemble pour le second tour, on se serait maintenu, on aurait discuté d'ailleurs de nos divisions, de nos oppositions théologiques ou idéologiques, mais ensuite on aurait fait une union et on aurait forcément discuté d'une fusion des listes. Attention, comparaison n'est pas raison. Entre le premier et le second tour, il s'est passé un phénomène quand même incroyable qu'il faut quand même souligner ici. C'est que la position qui a été la nôtre et ensuite tous ensemble partagée, qui a consisté à dire qu'on retirait ces listes pour éviter le Front National, a été suivie très largement, et y compris il y a eu une mobilisation de l'électorat qui s'est faite. Et même si le Front National a récupéré des voix, c'est ça qui est très important à conserver à l'esprit pour le deuxième débat, il n'empêche que le peuple de gauche, lui, s'est beaucoup plus mobilisé pour aller, évidemment, rejeter la carte du Front National. Alors, écoutez, il y a eu débat, non, oui et non, oui, bien sûr qu'il y a eu débat, je ne vais pas mentir, les gens ne me connaissent pas assez, mais ils vous le diront, je suis assez franc, bien sûr qu'il y a eu un débat. Vous croyez que c'est simple que l'ensemble, dans une liste, il y a des moments d'émotion? Il y a des moments d'émotion quand on a fait une élection, puis il y a des moments de raison. Et moi, je fus partie de ceux, sans même attendre Paris, qui avaient indiqué que si on n'avait pas la capacité de pouvoir se maintenir avec, là, pour le coup, si on se maintenait, on faisait voter Front National.
Dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans les Hautes-Alpes, les socialistes voulaient se maintenir.
Écoutez, ils voulaient se maintenir, je les comprends. Parce que quand je vois l'état de la gauche là-bas, quand je vois le peu de villes, de conseillers départementaux ou autres qui étaient dans ce secteur, la reconquête est plus difficile. Vous croyez que c'était simple pour nous ? Non plus. Mais je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution politique. Il fallait qu'on assume cette responsabilité. Il fallait qu'on dise très clairement qu'à un moment donné, il y a aussi un discours de responsabilité. Tout le monde a ce mot à un moment. Mais nous, les élus, qui sommes souvent critiqués par vos auditeurs, entre autres, il faut qu'ils sachent qu'on ne s'accroche pas au mandat. On est là pour faire de l'action publique et qu'on n'est pas là pour faire une carrière publique. Donc à partir du moment où nous avons vu que si nous maintenions la liste, il était à coup sûr certain qu'on la faisait passer, eh bien il était, parce que l'écart était trop grand, trop grand. Donc on a fait ce choix et croyez-moi, il n'y a pas eu des hésitations, il y a eu des débats internes comme il y en a toujours.
Guy Ménaroche, objectivement, si la liste coopérative avait fait 10% et s'était maintenue, vu la projection du rapport de force avec le Front National dans cette région, Marion Maréchal-Le Pen avait de fortes, fortes chances d'être élue.
C'est possible.
Vous l'auriez assumé, cette situation ?
Oui, on l'aurait assumé. Enfin, en ce qui nous concerne, on l'aurait assumé, puisque nous étions partisans de rester. Et je vous le dis clairement, c'était ce que nous avions entre nous décidé, en tout cas au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et on en avait discuté, on en aurait discuté avec nos partenaires aussi. On n'a pas eu cette possibilité. Voilà. Alors, bien sûr, certains disent le Front Républicain, entre guillemets, ça fonctionne. La meilleure preuve, le FN est battu. Soit, ça fait quelques années, mais le FN augmente régulièrement ses votes aussi en se basant sur le Front Républicain, en disant, voyez bien que nous représentons 30, 35, 40, 45, bientôt 51% des électeurs et qu'on ne nous laisse pas exercer des responsabilités. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire baisser l'influence du FN et de ses idées sur la société en France ? Nous disons carrément non, nous ne le pensons pas. C'est la raison pour laquelle nous pensions qu'il fallait se maintenir et faire jouer une musique, des solutions, une analyse de gauche entre les deux tours et surtout au Conseil régional.
D'accord. Pierre Dharréville, quand même, sur la question du maintien également, est-ce qu'il aurait été possible de prendre ce risque et d'assumer l'élection de l'extrême droite à la tête d'une région comme la PACA ?
Vous savez, les électeurs, ils nous le rappellent d'ailleurs suffisamment, ils sont adultes. Donc ils font leur choix en conscience. Nous, nous avons des responsabilités, nous devons les assumer. Moi, la question, on pourra en débattre éternellement. Le débat, de toute façon, pour nous, n'avait pas lieu d'être, puisque le score qui nous a été fixé ne nous a pas permis cela. S'il nous l'avait permis, peut-être que ça voulait dire que les gens souhaitaient que nous soyons représentés dans l'Assemblée régionale et que nous allions au bout. Donc moi, j'étais effectivement plutôt dans l'idée qu'il ne fallait pas laisser un tête-à-tête, un tête-à-tête mortifère, la droite et l'extrême droite, dans l'hémicycle. Parce que nous voyons bien ce que ça peut donner. Bon. Donc, c'est une question très difficile. Moi, je veux dire ça, si vous voulez. Je suis pas en train d'asséner des certitudes, là. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on était plutôt dans cette idée-là, mais que si on avait fait ça, on l'aurait fait en disant que c'était un choix extrêmement difficile et qu'on comprendrait, qu'y compris un certain nombre d'électeurs, peut-être dans cette voie-là, ne nous suivent pas. Parce que ça aurait été la réalité, parce que tout le monde réfléchit et se dit « mais qu'est-ce que je peux faire d'utile, d'efficace ? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'avenir ?» Mais ça s'est passé comme ça d'ailleurs, entre les deux tours, là, dans les conditions que nous avons connues. Un certain nombre de gens se sont interrogés, se sont posés des questions difficiles pour savoir ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient mettre le bulletin Estrosi dans l'urne ou est-ce qu'ils n'allaient pas le faire ? Et dans nos électeurs, parmi nos électeurs, un certain nombre l'ont fait, un certain nombre ne l'ont pas fait. Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur cette histoire de Front Républicain. Nous n'avons pas fait de Front Républicain. Ça n'existe pas, le Front Républicain. Ça n'existe pas. Bon, le Front Républicain tel qu'il est théorisé par un certain nombre de gens, il est utilisé, comme ça vient d'être dit par Guy Ménaroche, effectivement par le Front National, pour dire finalement, ça justifie, ils sont tous d'accord, sauf nous. Et nous sommes, encore une fois, nous avons des désaccords importants à gauche, il y a un débat qu'il faut mener et j'espère que ce débat pourra se mener et que les choses ne seront pas rédhibitoires, mais nous avons avec la droite encore plus un certain nombre de divergences et de différences extrêmement fortes, et y compris, parce qu'on parle de Front Républicain sur la République, moi j'ai entendu Henri Guénaud et Nicolas Sarkozy nous parler de la République, vous voyez, j'ai pas retrouvé la liberté, l'égalité, la fraternité, j'ai retrouvé le mérite, la concurrence, l'assimilation, tout ce que, mais ça c'est pas ma République, donc vous voyez, on a quand même un problème. Donc je ne défends pas cette idée d'un Front Républicain. Nous avons pris nos responsabilités dans les conditions qui ont été fixées par les électeurs et nous avons dit, voilà, dans ces conditions, nous souhaitons que le Front National soit battu.
Mais vous avez voté Estrosi à titre personnel ?
Mais vous étiez avec moi dans l'isoloir.
Je vous pose la question. Vous ne voulez pas vous exprimer publiquement sur ce choix.
Non, je ne me suis pas exprimé publiquement sur ce choix. D'accord. Parce que je considère que chacun était en face de ce choix difficile à faire. Moi, j'ai fait ce que je considérais avoir à faire et je souhaitais que le Front National soit battu. Et je l'ai dit à plusieurs reprises dans la semaine de l'entre-deux-tours. Pour moi, ça avait une signification extrêmement précise.
Alors, on a parlé beaucoup de tsunami, mais il y a néanmoins au niveau du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a des bastions qui résistent, des zones qui résistent plutôt bien, le 04. Le 06, même si la droite a beaucoup perdu, un vrai problème néanmoins, c'est celui des Bouches-du-Rhône, parti socialiste discrédité, noyé, englué dans les affaires et les querelles, qui n'a pas clairement fait le ménage dans ses rangs. On a retrouvé par exemple dans les listes de M. Castaner des gens plus ou moins liés au système des frères Guérini. M. Castaner d'ailleurs a fait avec ses 16% un des plus mauvais scores de la gauche au niveau national. Est-ce que on ne paye pas le fait de pas avoir est-ce que la gauche ne paye, la gauche et ses alliés ne payent pas le fait de pas avoir fait le ménage auparavant et d'arriver à cette élection de manière plus nette et plus claire?
Écoutez, franchement et très directement, si vous croyez que le vote de dimanche dernier est lié uniquement
au fait que le Parti Socialiste soit aujourd'hui encore dans les pages des faits divers.
Et les faits divers, je les regrette, je les condamne et ce n'est pas ma tasse de thé. Mais ça ne fait pas, c'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt des problèmes que nous avons. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons un autre problème, c'est la paupérisation. Faites très attention parce que, bien sûr que c'est un élément qui est discréditant. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi une autre forme de choses qui arrive, c'est qu'il y a une population en grande difficulté. Les réponses n'ont pas été données. Et puis n'oubliez pas une chose, regardez les villes où le Front National a fait ses meilleurs scores. Ce sont les villes, notamment à gauche, où la droite fait pas de très bons scores municipaux, où elle fait entre 10 et 11%. Et ça veut dire qu'il y a une partie de l'électorat de droite qui a aussi apporté au second tour des voix à l'extrême droite. Donc nous avons, donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement les difficultés que vous avez énoncées ne sont pas parmi les solutions. Mais par contre, je tiens à vous dire que s'arrêter uniquement à cela, certes, ça peut effectivement jouer, mais je crois qu'il y a d'autres choses qui jouent. Moi, vous savez, je garde à l'esprit quelque chose, et je termine, qui m'a beaucoup marqué dans ma vie publique. C'est en 2005, quand nous avons fait le traité constitutionnel, il y en avait très peu qui étaient pour le non. Je fus l'un de ceux à l'époque avec Jean-Luc Mélenchon. Et nous avions fait un score dans notre fédération qui était extraordinaire pour le oui. Eh bien, trois semaines, un mois plus tard, c'était exactement le score inverse qui se passait dans notre département. Ça me paraît des choses qui sont beaucoup plus importantes.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
On se retrouve sur Radio Grenouille pour l'émission du Ravi, donc comme thématique aujourd'hui, l'après-élection, trois jours après les élections. Le FN s'installe et maintenant, Pierre Dharréville.
Je m'excuse de vous sur l'intervention, la question que vous venez parler,
oui,
posée à...
Je vous en prie.
À M. Vigo. Oui, c'est Guy Benaroche, excusez-moi. Je voulais dire, je suis d'accord avec l'analyse. Bien entendu, il y a des tas d'éléments qui peuvent expliquer effectivement le renseignement du FN et le vote. Mais il ne faut pas négliger ce que nous appelons, nous, depuis longtemps, à côté de l'urgence climatique, l'urgence démocratique, qui est effectivement que nous avons un discrédit qui pèse sur nous et qui est lié à la façon, qui est lié à la fois aux institutions qu'on n'est pas arrivé à modifier, alors que quand même c'était un des chantiers sur lesquels devait se mettre François Hollande lorsqu'il a été élu président. Je m'excuse, il n'y a eu aucun changement, on les attendait, ils n'ont pas eu lieu, voilà, et les gens le savent, ils s'en rendent compte, et il y a un discrédit qui est lié aussi à la façon dont le personnel politique dans ce pays se coopte et continue à vouloir, au fur et à mesure, continuer à régler ses problèmes lui-même. Donc je m'excuse, cet élément est important aussi dans le racinement du FN. Il nous est reproché, il est important, nous devons en tenir compte, c'est une transition sur ce que nous devons mettre en place, nous devons en tenir compte de ça.
Pierre Dharréville, la probité, l'exemplarité, on est dans une région qui est souvent dans la page des faits divers, ça joue aussi, non ?
Oui, bien sûr, c'est un élément du débat. Moi, je partage ce que vient de dire Guy Benaroche sur l'idée que les gens ont le sentiment qu'en réalité, les décisions se prennent sans eux, bien souvent contre eux, qui n'ont pas voix au chapitre, y compris d'ailleurs que quand ils votent, c'est une forme d'abandon de souveraineté. Donc je crois qu'il faut mettre fin à ça. On a besoin réellement de refonder la démocratie et nos institutions. Et en mettant effectivement dans le paquet de tout cela, l'exigence qui doit s'exercer pour tous les responsables publics. Moi, il y a deux choses que je voudrais ajouter. La première, c'est que j'ai entendu, y compris des journalistes, dans la période qui vient de s'écouler, me parler de classe politique. Moi, qui suis un peu marxiste sur les bords, vous voyez, cette notion-là me déplaît fortement. Elle ne correspond pas pour moi à une réalité. Moi, je ne suis pas membre d'une classe politique. Je suis un citoyen qui milite, qui a des idées, qui les défend avec d'autres. Voilà, c'est la seule raison d'être de mon engagement. Et quand on parle de classe politique, ce que vous n'avez pas fait, quand on parle de classe politique, je crois qu'on participe à nourrir ce discours extrêmement dangereux du Front National qui met tout le monde dans le même sac.
Alors, ouais. Je suis vraiment complètement d'accord avec Pierre. Il faut vraiment qu'on fasse la différence. Vous savez, je crois que juste après les politiques qui sont haïs par les Français, il y a les journalistes, hein, je vous le dis quand même. Parce que les premiers, c'est pompiers, tout le monde les adore. Mais nous deux, notre profession, là, c'est très difficile. Je pense qu'il faut qu'on prenne le cas. En tout cas, c'est moi qui vous parle clairement en vous disant il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est très différente dans son action sur la capacité de faire de la politique. Ce n'est pas une chose simple, c'est très compliqué et il est absolument nécessaire, comme le disait Pierre Derville, que nous commencions et les uns et les autres à faire attention à nos paroles concernant la classe politique. Moi, je ne me sens pas du tout privilégié, je ne me sens pas du tout dans la classe politique. J'ai ma vie personnelle à côté, j'ai travaillé avant de m'être engagé. Et croyez-moi, le boulot d'un maire aujourd'hui, dans une ville comme la mienne, ce n'est pas de tout repos.
Monsieur Benaroche ?
Oui, je voulais juste dire, déjà il y a un mot qui m'a un peu gêné, c'est pas une profession la politique, hein. Les journalistes, je comprends, c'est votre métier, mais en politique c'est pas une profession.
On va parler de toi, voilà. Dans le sud, les politiques en général, leur marqueur c'est des carrières très très longues et
oui,
de multiples mandats.
Je suis d'accord, mais normalement, ouais, normalement c'est pas une profession, et je suis d'accord avec vous, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu une professionnalisation des hommes politiques. Pas une classe, mais une professionnalisation. Et ça, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je dis il faut changer les choses, changer la donne, les statuts des élus, la constitution et tout ce que vous voulez, pour faire en sorte que ça ne se produise plus. Quant au fait qu'il y ait une nouvelle génération de politiques, entre guillemets, oui, je veux bien, mais il faut les laisser venir. Il faut laisser la place aux citoyens, il faut ouvrir les listes à des gens qui ne sont pas des apparatchiks de partis politiques. C'est quand même important.
Michel ?
Oui, alors quand même, on vous entend, mais vous êtes les représentants de trois formations politiques. L'enjeu qui est le nôtre est celui du temps démocratique, et le nôtre, c'est la recomposition et de ces outils qui permettent le débat politique. Alors vous allez nous dire peut-être qu'il faut dépasser ces formes-là. Je vais vous donner la parole. Sur chacune de vos familles politiques, alors peut-être Guy Benaroche, il y a des débats énormes. Il y a eu une division énorme dans votre mouvement. On l'a dit très rapidement au départ. On est presque sur le point d'un éclatement. Vous avez vos responsables parlementaires qui sont partis ailleurs, qui ont créé une formation. Les écologistes là, qui se retrouvent d'ailleurs alliés au PS, très clairement. Cécile Duflot, elle, appelle à une coalition de transformation s'adresse à François Hollande. Qu'est-ce qu'on fait avec ce EELV qui semble plus que jamais divisé, émietté?
Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'il en reste quelque chose de EELV?
C'est la question. C'est fini. Oui, il reste déjà les militants, les adhérents, ceux qui sont sur le terrain, qui ont fait la campagne et qui comprennent pas toujours effectivement les positionnements de ces hommes politiques qui eux font partie de ce qu'on va appeler les professionnels de la politique. Alors on en a souffert, on en souffre encore. Je suis bien d'accord avec vous. C'est le parti qui doit décider aujourd'hui quel va être son devenir, quel va être son avenir dans les 6 mois à venir. Est-ce que nous continuons à mener une conception de la politique qui est celle du XXe siècle, qui va nous tuer et qui va faire disparaître l'autre parti, mais d'autres aussi? Ou est-ce que nous franchissons le pas, et nous avons essayé de le faire, je reviens au régional, avec cette idée de région coopérative, c'est-à-dire le pas pour nous à franchir, c'est de fédérer, d'aller à la rencontre des gens qui sont des militants associatifs dans les collectifs, qui dans leur vie de tous les jours, qu'ils soient chefs d'entreprise ou simples particuliers, appliquent un certain nombre de solutions qui sont celles que nous préconisons politiquement, mais que nous ne sommes pas capables de leur expliquer comme étant ce que nous voulons défendre avec eux. Ou nous franchissons ce pas et pendant au moins les deux ans à venir, nous laissons tomber tout l'apparat politicien qui est celui qui nous est reproché, ou nous ne sommes pas capables de le faire. Et effectivement, ELV va se scinder, disparaître en vue de la création.
En 18 mois, le chantier vous paraît réalisable en 18 mois?
Il est réalisable, bien sûr. Il est réalisable si on s'y attaque. Il est réalisable, tout est réalisable.
Une réaction quand même sur un phénomène assez étonnant. Laurence Bijnewski, votre candidate, tête de liste au régional en 2010, qui a sabré le champagne le soir du deuxième tour, parce qu'elle est élue. Elle est élue en Auvergne, derrière Laurent Wauquiez, qui est le numéro 2 aujourd'hui des Républicains.
Je suis d'accord.
Est-ce que ça, c'est pas un indice?
Oui.
Est-ce que les électeurs suivent?
Ça tue les partis politiques, ça tue ELV, parce que dans l'esprit des gens, effectivement, c'est ce qui est retenu uniquement. Il faut juste savoir autre chose. Laurence Bijnewski, quand elle a été élue, elle n'était pas membre de... Elle ne faisait pas partie d'Europe Écologie Les Verts. Elle a fait partie de ce choix de citoyen extérieur à Europe Écologie Les Verts en 2010 que nous avons jugé bon de faire élire et d'amener avec nous. Parmi les citoyens.
On avait eu droit à quelques leçons de morale à l'époque.
Bien sûr, de Roger Slevski. Bon.
Oui.
Alors, c'est
une
élection je me souviens simple
à Marseille.
Donc, est-ce que c'est une bonne chose? La réponse est non, bien entendu non. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de se battre sur autre chose que nos valeurs fondamentales et le projet de société que nous avons. Si nous nous battons sur ce terrain-là, effectivement, nous pourrons éviter ce genre
Michel.
De choses.
Alors, Pierre Dharréville, ça tangue aussi au niveau du Parti communiste. Alors, déjà, on s'y perd un peu, front de gauche, Parti communiste. Est-ce que le Parti communiste, est-ce qu'il faut ne rien bouger? Quand ça tangue, on ne bouge pas, on maintient les bastions. Ou est-ce qu'il faut aller plus loin, par exemple, dans une transformation du PC dans quelque chose qui serait plus grand que lui, un front de gauche ou quelque chose de... Ou est-ce que le front de gauche, ça ne marche pas? Cette mécanique ne marche pas, comme le dit Mélenchon?
Non, mais la question de la recomposition comme ça par en haut, elle se pose depuis des années et elle n'aboutit pas. Et je ne sais pas si c'est de cette manière-là qu'il faut prendre les choses. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation que je décrivais tout à l'heure, il existe assez peu de forces encore organisées qui sont capables, y compris de résister face à ce qui est en train de se passer. Et donc, il y a là un outil, pour ce qui me concerne, en tout cas, je crois qu'il y a un outil avec le Parti communiste qui a une capacité de résistance, d'action, de lien avec tout un tas de citoyennes, de citoyens, d'acteurs de la société, qui est un outil important. Donc, je pense qu'il faut le mettre au service de quelque chose qui... au service de la société, au service d'un mouvement émancipateur qui soit effectivement plus large que lui et qui sera plus large que lui. Nous, c'est ça l'optique dans laquelle nous travaillons.
Mais ça, c'est le temps long. Mais il y a des législatives qui arrivent très, très, très vite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de disparition de...
Vous savez, ça fait 25 ans qu'on nous annonce qu'on est mort, y compris à moi. On me l'a annoncé depuis 10, depuis 15 ans. On me l'a annoncé à chaque fois et je suis toujours là. Et je suis toujours là, pourquoi? Parce que...
Enfin, de plus en plus seul quand même, hein.
Non, je crois pas. Vous savez, quand on fait 1,97 aux élections présidentielles, je sais pas si on est plus seul qu'aujourd'hui, vous voyez. Donc on a traversé des épreuves, le Parti communiste
ça,
en a traversé beaucoup.
Ça, c'était le score de Buffet en 2002, c'est
tout
ça?
Tout à fait, voilà. Donc je dis pas ça pour me satisfaire de la situation d'aujourd'hui. Je dis ça parce que le discours médiatique ambiant, le récit qui se fait sur nous-mêmes, c'est toujours le même, c'est celui-là. Il faut changer un peu le disque parce qu'il est un peu rayé et ça ne correspond pas à la réalité, puisque vous voyez bien que y compris si vous m'invitez aujourd'hui, nous continuons à représenter quelque chose, y compris pour un certain nombre de gens dans la société. Donc il me semble qu'il faut reconnaître cela. Mais je n'ai pas terminé, si vous permettez. Il y a deux ou trois autres éléments que je voudrais rajouter. Le front de gauche n'a pas atteint, je l'ai dit tout à l'heure, les objectifs qui s'étaient fixés. Et nous voulions nous rassembler largement, tous ceux et celles qui étaient disponibles, pour essayer de transformer la société en profondeur et de s'attaquer notamment au règne de la finance. Bon, donc force est de constater qu'on n'a pas complètement réussi, mais il y a ce qui relève de nos responsabilités et ce sur quoi nous n'avons pas réussi à avoir de la prise également. Parce que je considère que quand la gauche est au pouvoir et qu'elle ne fait pas son travail, ça discrédite quelque part l'idée de gauche. Mmh. Et nous nous sommes battus aussi contre ça. Et tout à l'heure, on parlait de Front Républicain, et j'ai dit ce que j'en pensais, mais j'ajoute qu'il existe des tentatives, vous parlez de recomposition tout à l'heure, des tentatives de recomposer au centre en escamotant complètement l'idée de gauche qui sont dans l'air, qu'on a entendu, etc. Bon, et qui vont peut-être prendre un peu de consistance dans la période.
Je mets en garde
là-dessus. Moi, je suis extrêmement attaché à cette idée-là, parce qu'à mon avis, c'est la seule qui constitue une issue pour notre peuple.
Frédéric Vérou, justement, alors, juste après les élections, on a entendu deux messages assez contradictoires, hein, deux dynamiques contradictoires. Kamad Elis, qui, votre premier secrétaire national, qui dit il faut faire une inflexion, à gauche, hein, revenir un petit peu aux fondamentaux, lutter contre la précarité, les inégalités. Et puis on a le Premier ministre qui se positionne, qui était très engagé dans cette campagne, aussi dans le débat politique au sein du Parti Socialiste, et qui lui dessine plutôt ce qui est sa ligne politique, finalement la constitution d'une grande coalition démocrate ouverte au centre, voire même peut-être au centre droit. Vous allez pouvoir faire, vous êtes où dans ce débat, et est-ce qu'on peut tenir les deux bouts, est-ce qu'il faut...
Moi je suis à gauche, monsieur, et la question pour moi n'est pas contradictoire par rapport à ce que vous venez de me dire. La question, c'est quels sont les éléments nécessaires pour la reconstitution d'une offre à gauche. Il est évident que le Parti Socialiste, encore aujourd'hui, et malgré tout ce qui nous est tombé dessus, affaires et autres, nous sommes encore une force politique importante. Comment on recrée le lien à gauche? Peut-être de façon différente des années 90 à 2000. Peut-être que c'est une nouvelle forme d'organisation. Peut-être qu'il y a un débat à avoir. Je le crois, c'est comme cela. Il y a aussi des rénovations à faire dans notre propre fonctionnement, parce que les idées, elles sont portées par des hommes. Et donc, il faut aussi qu'on apprenne à jouer plus collectif et peut-être un peu moins individuel.
Il n'y a pas une forme d'entêtement quand même de la part du gouvernement? On a vu depuis la mise en place du pacte de compétitivité, par exemple, la politique de l'offre, la baisse des charges des entreprises, tout ça se fait au détriment de l'augmentation du SMIC, par exemple, qui n'augmente pas. Le chômage, lui, ne baisse pas.
C'est le débat au Parti Socialiste actuellement. Moi, je suis, je vous le dis, au Bureau National, c'est un débat qu'on a. Tout le monde sait ici que je suis dans la majorité aux côtés de Martine Aubry. Ce sont des débats que nous avons tous les jours. Et la position d'ailleurs de dimanche soir de Jean-Christophe Cambadéliste est très claire. Il demande une inflexion. Alors, dans le mot inflexion, on peut y mettre ce que l'on veut, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de ces élections, il faut qu'on en tire un certain nombre de conclusions immédiates. Mais il reste 16 mois.
Vous ne répondez pas quand même sur... Il y a quand même deux scénarios. Il y a un scénario de recomposition légitime, en pensant qu'il faut plutôt que le parti se positionne comme un parti démocrate.
Je vous ai donné ma position personnelle.
Vous dites qu'on peut faire les deux choses en même temps.
Je vais commencer par vous dire que j'étais à gauche. Donc je vous ai répondu. Maintenant, pour gagner des élections dans ce pays, il faut dans un premier temps choisir l'union et ensuite rassembler les Français. Il y a un certain nombre d'électrices et d'électeurs qui nous l'ont démontré d'ailleurs lors de ces tours, qui ne sont pas absolument contre le fait de voter pour des listes de gauche. Je rappelle quand même qu'il y a 5 régions qui sont revenues au PS alors qu'on le disait quasiment mort ou mort clinique, hein, j'ai entendu ces débats et même dans les écrits. Donc oui, il y aura ce débat-là, mais il a toujours existé. Je me souviens des débats entre un Jean Popren qui parlait du contrat social et un Michel Rocard qui nous parlait de l'entente avec le centre ou d'un développement. Il y a toujours eu ce débat-là. Mais là, le facteur depuis dimanche qui est complètement nouveau, c'est que la situation, quelle que soit, et moi je ne me réjouis pas du score du Front de gauche et du Parti communiste comme des Verts, je ne m'en réjouis pas, parce que ça veut dire que la gauche entière s'est pris une méga claque et qu'il va bien falloir retravailler ensemble et le contenu et la façon de fonctionner. Mais dans la façon de fonctionner, ça ne peut pas être non plus que des petits nombres de gens qui décident de tout. Et c'est là le problème que nous avons, car nos organisations politiques sont d'abord évidemment moins fortes que les syndicats.
On a vu l'affaiblissement, on ne va pas dire l'écroulement, mais enfin, l'affaiblissement du front de gauche. Le Premier ministre, forcément, ne va pas donner un coup de barre à gauche, puisqu'il a vu que le front de gauche n'était pas en forme. On va continuer dans cette dualité, là, comme ça, aller avec un gouvernement de gauche qui ne pratique pas une politique de gauche et une droite forte et une extrême droite encore plus forte?
C'est dur.
Bah, j'espère que non. Et donc il faut absolument inverser la tendance. Il faut que les gens de gauche se réveillent, se parlent et puis essaient d'inverser la dynamique. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont voté. Il y en a un certain nombre qui ont voté. Mais il n'y en a que la moitié qui ont voté. Et il y en a aussi une autre moitié qui ne s'est pas exprimée. Je ne dis pas que les 50% qui ne sont pas exprimés seraient naturellement prononcés pour nous ou pour la gauche dans sa diversité. Je ne crois pas ça. Mais je pense que s'il y en a 50% qui ne s'est pas prononcé, il doit y avoir des raisons qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux... Bon, bref. Donc... je crois qu'il faut, il faut effectivement recréer une dynamique à gauche, et c'est en créant des espoirs nouveaux pour notre peuple qu'on se sortira de cette ornière. C'est pas en glissant vers la droite indéfiniment. Or, je pense que c'est ce qui s'est produit un petit peu jusqu'ici. Après, sur les modifications, les transformations à opérer dans les partis politiques, elles sont absolument nécessaires. Nous avons un congrès qui va se dérouler au mois de juin. Nous allons encore remettre sur le chantier notre organisation. Vous savez, on a une image, je la connais, l'image que nous avons. Nous avons été la matrice sur laquelle tous les autres partis se sont organisés quelque part. On était un modèle, une forme de modèle d'organisation. Ça fait très très longtemps que nous ne sommes plus ce modèle-là. Et ça fait très longtemps...
Vous avez aussi l'image d'un mouvement à l'ancienne, très pyramidal. C'est l'image que vous traînez.
La verticalité du pouvoir.
Très verticale.
Bien sûr, mais sauf que ça ne correspond pas tout à fait à une réalité. Et quand je discute avec un certain nombre d'autres responsables politiques, je me rends compte que ceux qui ont la version la plus pyramidale du parti, c'est pas nous. Hein. Donc je pense qu'il faut, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas des transformations opérées. Nous en avons. Mais je voudrais insister sur une chose, parce que la critique des partis, elle est pour partie légitime. Mais en même temps, il y a besoin d'organisations collectives, on les appellera comme on voudra. Parce que si la politique devient qu'une affaire d'individus, ah, je crois qu'on aura tout perdu. Pour moi, c'est vraiment une affaire collective. Vous savez, en tout cas dans mon parti, pour ce que je connais le mieux, avant d'établir une position, on a des débats extrêmement longs, on essaie d'analyser les réels, de peser, il y a des désaccords qui s'affrontent, etc. Et on essaie de prendre les meilleures décisions ensemble. Mais ça, c'est la démocratie aussi. Et effectivement, Frédéric Vigouroux l'a dit, lorsqu'il y a un tout petit nombre qui décide, là, on a des problèmes. Il faut faire vivre la démocratie à plein et arrêter avec la démocratie, le tout démocratie représentative. Il faut vraiment que les gens participent. Et c'est pour ça, j'en termine là-dessus, que nos institutions doivent être revues. Et moi, je suis pour un changement de République. C'est absolument nécessaire de refonder la République aujourd'hui. Ça aidera les partis, d'ailleurs, aussi à se refonder. Mais refonder la République sur quelle base? Sur la base de la souveraineté du peuple. Et de la participation populaire aux décisions.
Guy Benaroche, vous aussi, est-ce qu'il faut clarifier un petit peu le logiciel politique des écologistes? Alors ceux qui sont partis, par exemple dans les Bouches-du-Rhône, vous aviez un député, le seul de la région d'ailleurs, François-Michel Lambert, qui vous a quitté, vous reproche à ceux qui sont restés d'être maintenant un noyau de radicaux gauchistes. Hein, j'y vais à la truelle, mais c'est à peu près ça. Vous assumez cette orientation? Non, parce que les Verts, ça a toujours été moitié...
On est toujours radicaux gauchistes de quelqu'un. Hein, donc,
EELV, ça a toujours été moitié je suis pour la Constitution européenne, moitié je suis pour une alliance avec le Parti socialiste, par moitié... Est-ce qu'il faut clarifier ou est-ce qu'au contraire, il faut recréer quelque chose de plus grand?
Déjà, il faut clarifier ce que vous venez de dire. Ça, jamais, c'est pas exactement ce que vous venez de dire. C'est pas moitié je suis pour ci, moitié je suis pour là. Il y a un débat, comme l'a dit mon ami Pierre Dharréville, et quand il parle de parti pyramidal, je sais très bien qu'il pense pas à nous. Effectivement, on n'est pas un parti pyramidal. Effectivement, il y a un débat. Ce débat chez nous, il transparaît partout, à l'extérieur, parce qu'effectivement, on le dit, on n'est pas tous d'accord, et sinon, on ne serait pas dans un parti écolo d'ailleurs. C'est clair. Si on était discipliné, le doigt sur la baguette, sur la couture du pantalon, on ne serait pas des écologistes. Et on ne serait pas dans un parti écolo. Donc on ne va pas nier ce qui constitue nos gènes initiaux. C'est clair. Je suis écologiste depuis 1974 personnellement. C'est vieux. Ça fait un certain temps. À l'époque, on n'était pas nombreux. On nous prenait pour des farfelus ou des terroristes. En tout cas, je le suis, je le reste. Et je suis avant tout écologiste. Ce qu'il faut clarifier, c'est effectivement aujourd'hui le logiciel politique d'une manière générale. Il faut arrêter de parler de la droite et de la gauche en définissant la droite et la gauche comme on le définissait il y a 45 ans. Il faut arrêter de mettre dans la gauche un certain nombre de partis qui sont tout ce que vous voulez sauf des partis de gauche dans les politiques qu'ils appliquent, et dans la droite un certain nombre de gens qui sont tout ce que vous voulez sauf des tenants de la droite libérale. Il faut arrêter de faire des clivages qui ne sont pas les clivages qui sont perçus par les gens dans leur quotidien. Aujourd'hui, on a des projets de société différentes à mener. On a des transitions vers ces sociétés. Le nôtre de projet, c'est un projet avant tout écologiste. Voilà. Alors après, effectivement, si on revient à des logiciels politiques, qui sont ceux qui consistent à dire on va aller d'une élection à une autre, en voyant quelles alliances on va faire à un moment donné ou quelles alliances on ne va pas faire, on se retrouve à l'inverse de la situation grenobloise dont vous parliez tout à l'heure. Pourquoi ça a fonctionné à Grenoble? Ça a fonctionné à Grenoble parce que ce qui a été fait à Grenoble était en route depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'un certain nombre de gens à Grenoble avaient décidé de travailler sur des dossiers concrets ensemble. Et lorsqu'ils se sont présentés devant des électeurs avec ce qu'ils avaient fait ensemble depuis des années, forcément, il y a eu un vote positif. Mais ce n'est pas une alliance qui est faite au dernier moment entre des partis qui ne partagent pas un projet de société. Revenons à cela, revenons à la recherche de la réalité des projets que nous défendons.
En parlant de projets que vous défendez, aujourd'hui, Frédéric Vigouroux, le vote FN, le vote Front National, c'est un vote transclasse. Toutes les catégories sont désormais représentées, les PME, les jeunes, les femmes, les ouvriers, les artisans. Vous avez changé les appareils, en tout cas vous souhaitez changer le fonctionnement des appareils et le discours.
Ah mais c'est prédicteur. D'abord, évidemment, il faut changer les pratiques et la façon de fonctionner. Mais évidemment, tout de suite derrière, il y a quelque chose qui est beaucoup plus difficile en politique, c'est on s'assoit et on réfléchit. Et réfléchir va nécessairement avoir comme conséquence que l'on traite tous les sujets. Je ne crois pas d'ailleurs que mon gouvernement glisse à droite, ni mon parti non plus. Je viens d'écouter Guy Benaroche, dont l'ancienne ministre de l'Environnement était toujours européen. Écologie des Verts, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Elle l'a quitté, c'est vrai, mais il s'est fait des choses pendant qu'elle était là. Et nous avons travaillé et obtenu un certain nombre de résultats. Mais la question, à travers votre propos sur le Front National, il faut qu'on aille au-delà. Nous sommes sur une question, de mon point de vue, qui traite de la question culturelle au sens collectif du terme. Et ça, c'est pas si simple que ça. Il faut qu'on retravaille avec une partie... De celles et ceux qui réfléchissent et qui écrivent. Il faut que nous revoyons la question culturelle avec des universitaires, avec ceux qui pensent, qui réfléchissent. Pourquoi ? Parce que la société a changé, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'on peut toujours se cacher en regardant dans le rétroviseur?
Je vous redonne la parole, mais juste un chiffre quand même. Hein. Dans votre mairie de Miramas, le Front National, au deuxième tour, en tête, 54%. Au premier tour, 49%. Ça fait de votre ville, dans les Bouches-du-Rhône, une ville qui est en tête du vote FN.
Heureusement, ce n'est pas le pompon. Je n'ai pas le pompon, mais ça m'a beaucoup interrogé. D'autant que 8 mois plus tôt, c'était exactement l'inverse. Il y a un an et demi, j'étais élu au premier tour avec une liste d'Union de la Gauche et d'indépendants. D'écologistes, d'environnementalistes, et que nous avions fait 51, ce qui n'avait jamais été le cas depuis 1910. Donc je m'interroge, y compris sur nos politiques publiques, malgré tout ce que l'on fait, rénovation urbaine et le reste. Il y a forcément une partie des citoyens aujourd'hui qui ne se retrouvent pas dans les mots valeurs républicaines. Et il faudra donner du contenu qui ne sera pas simple autour de la laïcité, autour de l'engagement, autour de ma place par rapport à cette société, de la question de ne pas être toujours dans « tu me donnes, je te donne », la façon dont les familles ont évolué. Tout cela, il va falloir qu'on le traite et qu'on en discute. Ça peut être d'ailleurs, sur le plan intellectuel, un formidable projet pour toute la gauche, en y mettant ce que je viens de dire, l'environnement, le rapport au travail, au capital, la question de l'évolution de cette société. Je crois que c'est là que nous détenons une des clés de la recomposition de la gauche.
Michel, une question qui est adressée à vous trois. Qu'est-ce qu'on fait avec Estrosi ? Qu'est-ce que vous faites avec Estrosi ? Vous n'êtes pas... Vos mouvements ne sont pas à la région. Estrosi qui a eu une révélation entre les deux tours. Hein. Maintenant, il dit plus on va à droite, plus on fait monter le FN. Il semble déterminé à changer un certain nombre de choses de son logiciel politique. Et il crée un conseil des territoires où il veut vous associer, au moins pour vous consulter, pour gérer cette région. Alors, c'est un piège, il faut y aller.
Moi, dans tous les endroits où il est possible de faire entendre la voix de l'émancipation et la voix populaire, il faut y être. Après, il ne s'agira pas d'une co-gestion, hein, parce que nous allons être en désaccord assez frontal. Les propositions qui ont été faites par M. Estrosi pendant sa campagne, je ne les partage pas. Donc voilà, il va y avoir un affrontement politique là-dessus. Voilà. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus... on a besoin d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure déjà, on a besoin de restaurer aussi le débat d'idées, le désaccord comme une pratique nécessaire. Voilà. Donc nous, on est dans cet état d'esprit et on va nous-mêmes prendre des initiatives pour associer la population. Le problème, c'est de refaire de la politique une affaire populaire. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que ça n'est pas le cas. Donc si nous voulons faire cela, il faut prendre des initiatives. Nous en prenons régulièrement les uns les autres. Elles ont le succès mitigé qu'on connaît, mais il faut prendre des initiatives dans cette direction, parce que la politique et la crise de la politique que nous traversons, la crise de la démocratie, c'est aussi une crise pour chacun de son rapport à l'autre, de son rapport au monde. Et donc pour moi, c'est une dimension essentielle d'être humain, la politique, et c'est ça qu'on a perdu.
Guy Benaroche, Estrosi a promis à Gouvernatori, votre concurrent de l'Alliance écologiste indépendante, qui a fait 4%. Hein. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de campagne, mais 4%. Il lui a promis la création d'un institut pour l'écologie, 30 millions d'euros, dont il sera président. Ouais.
Bon, d'abord, il y a déjà un organisme qui existe au sein de la région et du conseil régional, qui s'appelle l'ARP, qui a fait du bon boulot depuis des années, avec des financements, dont la présidente était une conseillère régionale écolo qui s'appelle Annabelle Gégère. Donc, je veux dire, bon, ça, c'est une promesse. Bon, écoutez, ça veut rien dire pour nous. Après, effectivement, l'AUI et Gouvernatori, c'est un parti qui a fait 4%. Ça fait des années que ce parti-là ne se présente que dans des élections à la proportionnelle où il recueille en général entre 2 et 3% qui prennent directement sur les voix des écologistes et qui disparaissent de tous les combats écolos qu'on voit pendant des années menés dans la région. D'accord. Ils ne sont pas connus des collectifs, des associations, des gens de terrain. Bon, c'est très bien. Ils ont réussi leur coup. On va dire ça, c'est parfait.
Il faut aller au Conseil des territoires.
Alors, nous disons-nous, il faut aller au Conseil des territoires s'il existe. Voilà. Va-t-il exister? Comment va-t-il être réuni? Qui va choisir qui sera? Il faut y aller. Il faut faire en sorte qu'en y allant, il n'y ait pas que des représentants des partis politiques. C'est-à-dire qu'il faut convier aussi des citoyens. Nous avons des candidats qui n'étaient pas des partis politiques. Et ben, nous les amènerons à ce conseil s'il existe.
Enfin, voilà, on ne peut pas en faire l'élection non plus.
On ne fait pas une élection. Nous, on n'a rien proposé. Si, de toute façon, nous avons nous proposé et nous mettrons en place de toute façon un conseil citoyen. Il existera de toute façon.
Frédéric Vigouroux, Estrosi, le résistant, c'est crédible tout ça? Il faut travailler avec lui.
Écoutez, je crois que nous avons parlé près d'une heure de la gauche, mais si on regarde bien la question de la droite, elle s'est effondrée aussi. Et donc la question est de savoir si la droite n'est pas en train de découvrir aussi que son discours sur beaucoup de thèmes que Mme Le Pen a développé et son père avant ne sont pas des pièges pour des démocrates et qui se retrouveraient ensuite entre une copie et l'original. Moi, je ne vais pas m'appliquer à moi ce soir avec vous le fait de décider seul, vous voyez. Donc, ça va peut-être marquer un peu Marseille. Je vais attendre d'en discuter avec les socialistes sur cette proposition qui a été faite. J'ai lu dans la presse qu'il y avait... s'il s'agit de travailler sur des dossiers, vous savez, on aura la métropole bientôt, je pense que les dossiers peuvent être travaillés, l'intérêt général peut y trouver son compte. S'il s'agit d'un pouvoir, je crois que ça n'en a pas, puisque nous sommes pas, ils ne seront pas désignés, ils ne sont pas élus, mais désignés, et que le débat, par contre, ne s'arrêtera pas simplement à ce qui a été sera dans la région, dans le bâtiment de la région. On va pouvoir débattre de ces sujets partout. Et je suis heureux que Guy Benaroche a rappelé ce que l'ARP a fait et développe dans toutes nos collectivités locales. Travail commun que nous avons mis toute la gauche avec Michel Vauzel en place pendant de nombreuses années. J'espère que cela continuera.
Sophie Camard, Jean-Marc Coppola nous disent la région coopérative, ça continue. Sous quelle forme? Vous allez continuer à travailler ensemble dans la dynamique de cette campagne?
Oui, sur la question régionale, on avait porté un projet commun. On va essayer de faire vivre ces propositions dans ce contexte difficile. On va effectivement, Guy Benaroche l'a très bien dit, essayer de constituer un conseil vivant qui fera des propositions, qui animera des réunions publiques. On verra quelle forme ça prendra et ça évoluera sans doute au fil du temps.
Alors la réponse est oui. On a une vision de la région, très brièvement, on l'a développée, on a pris des engagements, on a demandé un certain nombre de choses, on essaiera de faire que ça se déroule. Voilà.
Frédéric Vigouroux. Si la porte est ouverte, nous sommes prêts nous aussi à discuter, qu'elle soit coopérative. Moi j'aime beaucoup la coopération, mais évidemment nous avons des projets
temps,
très proches.
Frédéric Vigouroux, oui. La COP21 est terminée, vous n'avez plus besoin des verts maintenant?
Non, écoutez, la COP21, franchement c'est un très beau succès. Et je pense que beaucoup d'écologistes, d'environnementalistes, de gens le reconnaissent. Il nous restera à faire, comme toujours dans un texte diplomatique, le faire vivre dans des opérations pratiques et précises dans nos collectivités, ce que je fais moi dans ma commune.
Pierre Daréville, dernière question, quelques secondes. Le mode de scrutin a été changé avant ces régionales, une prime pour le gagnant. On voulait sortir un petit peu du piège FN, finalement.
À chaque fois qu'on a modifié les modes de scrutin, ça n'a jamais fonctionné comme leur promoteur l'entendait. Moi, de manière générale, je suis effectivement plutôt favorable à la proportionnelle.
Ouais. Enfin, faut pas oublier qu'en 98, la proportionnelle, justement, a conduit la droite.
Moi, je suis pour la démocratie. Moi, je suis pour la démocratie.
Et en Rhône-Alpes, a discuté avec le Front National.
Tous ceux qui modifient les modes de scrutin en réfléchissant à ce qu'ils pourraient y gagner, je crois qu'ils se trompent et qu'à l'arrivée, ça ne donne jamais de bons résultats.
Frédéric Vigouroux, la proportionnelle?
On peut pas être républicain le matin et pas démocrate le soir. Moi, la proportionnelle, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense même une dose proportionnelle ou pas, mais c'est quelque chose sur lequel il faudra avancer.
Guy Benaroche?
Oui, à 100% d'accord pour la proportionnelle et le non-cumul des mandats.
Je vous remercie, on se retrouve le mois prochain.
C'est déjà dans la loi.
Radio Grenoble.